30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Radio Galère, c'est les infos de 12h30, les infos choisies, les infos du vendredi, on ne sait même plus trop comment les appeler. Peut-être qu'un jour on se fixera un nom définitif et ce sera un peu plus clair. En tout cas, c'est des infos choisies qu'on tient chaque vendredi à 12h30. Et aujourd'hui, on avait envie de parler de plein de choses et on n'aura pas le temps de parler de tout puisqu'on n'a qu'une demi-heure. On voulait parler de la chlordécone, ce poison, cet insecticide utilisé en Guadeloupe et en Martinique pendant des décennies et qui cause un tas de cancers et de problèmes de santé. Ben, cette semaine, le cancer de la prostate a été reconnu comme une maladie professionnelle dans le cadre de l'utilisation du chlordécone. Est-ce que c'est une promesse électorale? Est-ce que ça va être effectif? Ces indemnisations vont-elles avoir lieu? Réponse dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, pour l'instant, on peut un petit peu douter puisque le texte met en avant une utilisation d'au moins 10 ans de l'insecticide et du poison pour pouvoir avoir des indemnisations quand on a un cancer. Donc il faut avoir utilisé le chlordécone pendant 10 ans, avoir un cancer et pouvoir justifier tout ça. Donc un peu compliqué, mais en tout cas, c'est au moins une petite bonne nouvelle. Et puis en restant aux Antilles, on aurait voulu aussi parler de la Guadeloupe, puisqu'il y a toujours des manifs et des blocages très importants en Guadeloupe, notamment le conseil régional qui est occupé depuis hier soir, qui est toujours occupé a priori. Et samedi dernier également, le plus grand centre commercial de l'île a été bloqué par des manifestantes et manifestants. Sur leur banderole, on peut lire des revendications contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale et pas forcément des trucs anti-vaccins comme disent à peu près l'intégralité des mass médias. Donc essayons de suivre vraiment ce qui se passe là-bas de manière un peu plus précise qu'en écoutant les grands titres des grands journaux. Et puis on aurait bien aimé également parler du Soudan où d'énormes manifestations révolutionnaires se tiennent très régulièrement contre l'armée et le pouvoir en place qui est là depuis fin octobre. Les manifestants et manifestantes subissent une répression énorme, féroce, faite de lacrymos, de violences, de tirs à balles réelles et depuis ces derniers jours, même un viol punitif a été mis en avant par RFI notamment. Donc tous ces trucs-là, on aurait bien voulu en parler, mais on ne va pas les approfondir. Peut-être dans les semaines qui viennent, si vous nous suivez, on en reparlera sûrement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur trois choses. La mort de Bell Hooks, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et dont on voulait parler la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas eu le temps de préparer. Donc on en reparlera aujourd'hui, qui est une militante et universitaire afroféministe états-unienne. On parlera aussi de brevets dans le monde médical et pas que, de Big Pharma et de l'OMC. Et on parlera des financements de l'université et du complot islamo-gaucho-wokiste wokiste. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Bienvenue dans les infos choisies.
On a appris en début de semaine que Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé, par un tweet, suspendre tout financement et toute coopération de la région avec Sciences Po Grenoble, qu'il accuse de dérive idéologique et communautariste. Vous vous souvenez peut-être que début mars, deux professeurs avaient été ciblés par des affiches placardées sur les murs de Sciences Po Grenoble, les accusant d'islamophobie. Des accusations publiques qui, quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, avaient provoqué la polémique et une condamnation de la classe politique. Un des professeurs en question, Klaus Kinzler, professeur d'allemand, avait bien tenu des propos véhéments envers l'islam, ce qu'avait notamment souligné la direction de Sciences Po, jugeant extrêmement problématique sa manière d'aborder le sujet. L'affaire avait en fait commencé autour d'une journée de débat intitulée « Racisme, antisémitisme et islamophobie », terme dont il contestait le caractère scientifique, tout en critiquant l'islam. Klaus Kinzler, se disant victime d'une chasse aux sorcières, a alors accordé plusieurs interviews dans la presse nationale, dans lesquelles il fulminait contre Sciences Po Grenoble, devenue selon lui une école de « rééducation politique » visant à imposer auprès des élèves les théories « woke ». Une mission que mènerait un noyau dur d'enseignants avec la bénédiction de la direction. Et c'est en raison de ses propos diffamatoires visant l'école que ce professeur a été suspendu en décembre pour 4 mois, tout en conservant son salaire pendant ce temps-là. La polémique reprend, 40 personnalités, pour la plupart issues du monde universitaire, soutiennent le professeur mis à pied dans une lettre ouverte à Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Mais cette lettre, soi-disant ouverte, reste introuvable dans son intégralité sur Internet. On ne peut en lire que les premières lignes, on ne trouve surtout pas les noms des signataires. Le 26 novembre dernier, 16 des 17 étudiants de l'IEP et Sciences Po, poursuivis devant la section disciplinaire de l'Université de Clermont-Auvergne, ont été relaxés, alors que Frédéric Vidal, la même ministre de l'Enseignement supérieur, avait préconisé des sanctions à leur encontre. Un seul étudiant a fait l'objet d'une exclusion temporaire avec sursis. Alors, suite à l'annonce de Wauquiez, toute la droitosphère et fachosphère se félicite, tweet dur en applaudissements et bravo pour la haute lutte de Wauquiez contre l'infiltration de nos grandes écoles par l'islamo-gauchisme. Mais le sénateur écologiste de l'Isère, Guillaume Gontard, lui relève à juste titre que Laurent Wauquiez n'est pas dérangé quand il s'agit de financer le projet de campus de l'Université catholique de Lyon. Au-delà de l'effet d'annonce de Wauquiez pour relancer la polémique sur l'islamo-gauchisme, regardons de plus près. Est-ce que ça veut dire couper les financements ? Selon Le Monde, le montant des aides de la région à Sciences Po Grenoble s'élève à 100 000 euros hors investissement sur projet par an, sur un budget global de 5 millions d'euros de l'IEP. Il faut savoir qu'en fait, ce soutien financier ne consiste pas en des subventions, mais surtout en l'attribution de bourses aux étudiants, de soutien aux projets de formation continue et à l'action sociale. Cette décision va en fait affecter des étudiants et des publics ayant des difficultés d'accès aux études supérieures ou à une formation. Voilà, comme d'hab, ce sont les pauvres qui vont trinquer, et celui qui se dit victime d'une chasse idéologique, Klaus Kinzler, s'est en fait lui-même comporté en censeur en refusant que le concept d'islamophobie soit mis sur le même plan que l'antisémitisme et le racisme dans l'intitulé d'un débat public.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
C'est toujours les infos choisies sur Radio Galère de 12h30 à 13h. Bellux est morte le 15 décembre 2021 à l'âge de 69 ans. Nous prenons maintenant quelques minutes pour en parler parce que c'est une figure qui a contribué à forger mon féminisme, des féminismes et à outiller sur les questions pédagogiques. Moi, perso, j'ai rencontré cette voix féministe qui nous vient des États-Unis il y a quelques années sur les bancs de la fac lorsqu'une enseignante nous disait que c'était une lecture indispensable pour des personnes travaillant à élaborer des pédagogies avec des personnes minoritaires. Puis la rencontre s'est un peu mieux faite au moment de la publication en français de « Ne suis-je pas une femme ?» en 2015 et « De la marge au centre » en 2017 aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcières. Ce sont ses deux premiers essais, parce qu'en fait elle en a publié une trentaine en tout. Avant de continuer, il est important de préciser que Nassira Edjerassi, professeur des universités, s'est longtemps battue pour que Bellux soit connue et reconnue en France. Elle a traduit de nombreux textes et a notamment publié des articles dans des revues universitaires sur Bellux. Les recherches de Madame Edjerassi portent sur les féminismes afro-américains et africains, sur l'accès des femmes aux professions semi-intellectuelles et intellectuelles supérieures, en particulier dans le champ philosophique. Elle préface De la marge au centre et c'est Amandine Gay, activiste afroféministe et réalisatrice d'Ouvrir la voie, entre autres, qui préface Ne suis-je pas une femme en 2015. Une petite biographie, toute petite. Bell Hooks était autrice, essayiste, philosophe et activiste afro-américaine née en 1952 dans le Kentucky. C'est au sud rural des États-Unis. Son enfance a été marquée par les lois de la ségrégation raciale. Elle est influencée par le pédagogue Paulo Freire. Bell Hooks a écrit sur de nombreux sujets tels que la pédagogie, la sororité, la restauration de l'estime de soi, l'impérialisme blanc, la culture populaire, etc. Elle est née sous le nom de Gloria Watkins et originaire d'une famille socialement modeste. Le père était gardien à la poste et la mère occasionnellement femme de ménage. Sur le plan des études, Bell Hooks choisira les questions de genre en sentant un léger malaise quant au manque lié aux questions de classe. À 19 ans, elle terminera le brouillon de « Ne suis-je pas une femme ?» pour faire entendre d'autres voix, mais peinera à trouver une maison d'édition acceptant de l'éditer. Elle a travaillé tout au long de ses études pour pouvoir les financer. Elle finira par rédiger une thèse à la fin de ses études sur Toni Morrison. Bell Hooks était aussi, bien évidemment, une passionnée et férue de la poésie. Hier, Libération, le journal, le quotidien, a publié un entretien avec Amandine Gay racontant sa rencontre avec cette autrice et activiste afro-américaine. Et maintenant, on va juste lire des extraits de la préface de La marge au centre, théorie féministe, qui la préface de l'édition américaine de 1984. Être dans la marge, c'est faire partie d'un tout, mais en dehors de l'élément principal. En tant qu'Américains, Américaines noires qui vivons dans une petite ville du Kentucky, la voie ferrée était un rappel quotidien de notre marginalité. Au-delà de ces rails, il y avait des rues pavées, des magasins dans lesquels nous ne pouvions pas entrer, des restaurants dans lesquels nous ne pouvions pas manger, et des gens que nous ne pouvions pas regarder directement dans les yeux. Au-delà de ces rails, il y avait un monde dans lequel nous pouvions travailler comme bonnes, comme concierges, comme prostituées, aussi longtemps que nous étions en capacité de servir. Nous pouvions entrer dans ce monde, mais nous ne pouvions pas vivre là-bas. Il fallait toujours que nous retournions dans la marge, de l'autre côté des rails, vers les cabanes et les maisons abandonnées en périphérie de la ville. C'est le manque de matériel disponible sur et par les femmes noires qui m'a amené à entamer les recherches et à rédiger « Ne suis-je pas une femme ?»,« Femme noire et féminisme ». Et c'est l'absence de théorie féministe s'adressant à la fois à la marge et au centre qui m'a amené à écrire ce livre-ci, de la marge au centre, du coup. Dans les pages qui suivent, j'explore les limites de différents aspects de la théorie et de la pratique féministe que Ejo propose de nouvelles voies. J'essaye d'éviter de répéter des idées qui sont largement connues et discutées, préférant me concentrer sur l'exploration d'autres problématiques ou sur de nouvelles façons d'aborder de vieilles problématiques. Par conséquent, certains chapitres sont très longs et d'autres plutôt courts. Et aucun n'a la prétention de proposer d'analyse exhaustive. Tout au long de mon travail, mes idées ont été modelées par la conviction que le féminisme doit devenir un mouvement politique de masse si l'on veut qu'il ait un impact révolutionnaire significatif sur la société. Voilà.
Luma wax yena fuma jëm yena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yena ko waral dal ci Senegal de ko gëy ñay ñay moy sunu gal te ci ñu ñe gëssin te gal ma bëssin bëgg na leen ningen di bege nonu lay bege ningen di solo nonu lay solo bien fingen tak
fo fula de ke bignalin ningen ko bege nonou lay deme fangen may sentuma fo fula jubal diko jubant diko jubant bignalin Nikke poussew momu gëna wax ciusew Nikke poussew momu gëna wax ciusew Ah ci poussew da fay dundal bëg na leen
Sundour sur Radio Galère, vous écoutez toujours les infos choisies. Et on va s'arrêter quelques secondes, minutes sur un article paru sur Mars Actu il y a quelques jours. Un article qui en dit peu, mais qui en dit long en fait, de manière paradoxale, puisque c'est très sombre. Un homme a été retrouvé mort en début de semaine dans un immeuble squatté de la cité du Petit Séminaire dans le 13e arrondissement. Ça se situe du côté de Frévalon. Et la manière dont est écrit cet article est quand même très révélatrice. Déjà, rien que sur cette première phrase, on peut s'arrêter en se disant qu'il y a très peu de précision, on ne sait même pas exactement quand il est mort. La cause de ce décès est inconnue, mais le drame intervient dans un contexte de grande inquiétude pour les habitantes et habitants du squat, qui, nous dit-on, est insalubre et qui serait actuellement occupé par une quarantaine de personnes, principalement des personnes migrantes. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête. Ces dernières semaines, le bâtiment avait subi des coupures d'électricité pour, nous dit-on, prévenir du risque d'incendie électrique. Donc pour pas que ça s'enflamme, on coupe l'électricité, visiblement de manière, on coupe de temps en temps l'électricité. Et paradoxalement, cette mesure a contraint les familles à utiliser des modes de chauffage encore plus dangereux Et on imagine évidemment des chauffages qui se dispensent d'électricité, donc des chauffages au fioul. L'article questionne, l'homme décédé cette semaine a-t-il été victime d'une intoxication donc, qu'on peut comprendre au monoxyde de carbone ? Les résultats de l'autopsie devraient le préciser. Donc là, à demi-mot, en fait, on nous dit hein, qu'un homme serait probablement mort par intoxication au monoxyde de carbone suite à des coupures d'électricité décidées visiblement par des autorités qui voulaient prévenir du risque d'incendie électrique. Merci à ces autorités. Les gens, alors Jean-Régis Roy-Jacquers de Médecins du Monde déclare dans cet article « Les gens meurent dans ces copropriétés dégradées, c'est une réalité, il faut que ça s'arrête. On avait mis en garde les pouvoirs publics depuis plusieurs semaines. » Les pouvoirs publics, parlons-en. Patrick Amicot, en charge du logement à la ville de Marseille, était sur place, donc avant-hier soir, aux côtés des services de la préfecture, notre autorité, tiens. Et selon lui, il est encore trop tôt pour coordonner une évacuation des lieux. Voilà, donc merci pour la réaction, Patrick Amicot. Peut-être une pensée pour la famille de la victime, ou peut-être se questionner sur les responsabilités des autorités. Non, on parle de coordonner une évacuation des lieux, qui est une option qui pourrait être mise sur la table, nous dit l'article, dans les jours qui viennent, comme cela est déjà arrivé au cours des trois dernières années dans cet ensemble détenu par Habitat Marseille-Provence, immeuble qui doit être détruit. Donc la réponse aux gens qui meurent à cause de l'insalubrité et des conditions de vie désastreuses, ce serait d'évacuer les immeubles. Évidemment, les gens ne mourront pas si on évacue leur logement. C'est terrible, on aimerait bien en savoir un petit peu plus et on aimerait bien aussi que ces autorités se remettent en question et changent de politique. On va enchaîner du coup sur la prochaine.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, 88.4 FM.
Et alors, on va parler d'accaparement des biens communs à partir d'un article que j'ai trouvé sur Contretemps, qui est une revue de critique communiste, et des articles qui ont été écrits par Éric Toussaint. Donc l'auteur analyse ici la logique exploiteuse de Big Pharma en s'attardant évidemment, entre autres, sur l'exemple du marché des vaccins. Et les dix marchés creusent encore plus les inégalités. Donc d'abord, quelques constats. Plus le capitalisme s'est étendu, plus il a favorisé l'appropriation privée des connaissances et des techniques, notamment par le système des brevets. Donc non seulement le grand capital ne partage pas les connaissances, mais il se les approprie. Et ensuite, une fois approprié, les fait payer au public. Donc il accapare les résultats des recherches effectuées par des universitaires, donc financement à partir de financement public, ou des centres de recherche public. Il brevette aussi des semences qui sont le résultat de multiples sélections opérées au cours des siècles par des paysannes. Par exemple, la firme qui s'appelait avant Monsanto, qui est Del Monte, maintenant de l'agrobusiness, a fait breveter des tomates produites par des populations des Andes et prétend ensuite leur faire payer un droit sur les semences. Donc ça, c'est un exemple commun, mais qui montre bien cette logique complètement aberrante. Donc l'OMC, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce, a été mise en place en 1995. Un accord ratifié a permis aux grandes entreprises capitalistes de renforcer leur pouvoir. Il concerne des domaines aussi diversifiés que la programmation informatique et la conception de circuits imprimés, les produits pharmaceutiques ou les cultures transgéniques. Donc il y a un accord de l'OMC qui a été mis en place et qui est beaucoup plus strict que la législation en vigueur dans la plupart des pays. En pratique, cela signifie que si un pays ne respecte pas ses obligations en termes de droits de propriété intellectuelle, il peut se voir imposer des sanctions commerciales, ce qui constitue une menace sérieuse. Donc ensuite, il n'y a pas seulement que l'OMC, il y a la FMI et la Banque mondiale et les grandes puissances qui mettent la pression et qui ont utilisé tout leur poids, notamment par leur biais de leur position de créancier, pour pousser les pays récalcitrants à respecter ces accords donc de brevetage de tous les biens communs. Ou bon, pas tous, je les ai cités, mais une grande partie des biens communs. Donc pour ça, c'était un peu en général et plus précisément sur les vaccins. Depuis 2020, plusieurs grandes puissances, parmi lesquelles l'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon, s'opposent à la levée temporaire des brevets sur les différents vaccins contre le coronavirus. L'administration Biden, qui avait annoncé en mai 2021 qu'elle était favorable à la levée temporaire des brevets, n'a rien fait de tangible. Donc, rien ne change. Et donc, la raison principale réside dans le fait que ces brevets sont la source de bénéfices énormes pour les grandes firmes pharmaceutiques privées. Elles sont protégées et favorisées par les gouvernements qui permettent qu'elles abusent de leur position. Les principales sources financières des entreprises pharmaceutiques sont constituées par les brevets, qui génèrent 80% de leurs bénéfices. Donc, qui mettent aussi sur les gouvernements, sur l'OMC, des pressions énormes. En 1980, les États-Unis ont adopté une loi qui autorisait les petites entreprises et les universités à breveter les inventions développées avec des fonds publics. Donc, ce transfert de technologie a transformé la recherche publique en brevets privés. Donc depuis l'extension de la pandémie à l'échelle de la planète, donc le débat sur les brevets est redevenu central. Il y a eu beaucoup d'enjeux sur le VIH et maintenant, donc qui se réouvre avec le coronavirus. Et donc au sein de l'OMC, de début octobre 2020, l'Inde et l'Afrique du Sud, appuyés par 62 pays, ont proposé que l'on renonce aux brevets privés qui s'appliquent à tous les produits nécessaires à la prévention, au confinement et au traitement. La proposition reste bloquée à l'OMC, notamment à cause de la position de la Commission européenne qui refuse de suivre l'avis du Parlement européen. Un an plus tard, donc début octobre 2021, ce sont 105 pays qui appuient dorénavant la proposition de lever les brevets et il n'en est rien. Encore. Donc là, on peut parler des doses d'inégalité. En août 2021, moins de 2% des 1,3 milliard de personnes vivant sur le continent africain étaient entièrement vaccinées, contre plus de 60% des populations d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. À la date de juin 2021, un quart des 2,295 milliards de doses administrées dans le monde l'ont été dans les pays du G7, qui hébergent seulement 10% de la population mondiale. Je suis désolée, c'est beaucoup de chiffres, mais moi je les trouve assez intéressants. Alors je vais continuer un peu, et ça fait un peu mal à la tête. Mais sur les 5,76 milliards de doses injectées dans le monde, 0,3% sont allées à des pays à faible revenu. Donc parlons des entreprises qui engendrent tout ça. Donc c'est 6 entreprises aux manettes de ce déploiement de vaccins. Ah, désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Les revenus bruts et les bénéfices nets qui sont en train d'accaparer les sociétés pharmaceutiques grâce aux brevets sont colossaux. Donc BioNTech, Moderna et Pfizer devraient engendrer 130 milliards de dollars américains de recettes d'ici à la fin 2022. Mon cher camarade tout à l'heure a dit que c'est 3 fois le budget de l'armée française. Ou pour comparer, 130 milliards de dollars, ça équivaut à 2/3 du budget total de l'Union européenne pour l'année 2021. Ou c'est 10 fois plus que le budget de la santé de l'Inde pour l'année fiscale 2020-2021. Bon, c'est dur de se représenter 130 milliards, en tout cas c'est abusé. Et grosso modo, le coût de production d'une dose de vaccin Covid varie entre 1 et 2 euros alors qu'elle est achetée par les pouvoirs publics du Nord à un prix qui représente entre 10 et 20 fois cette somme. Donc Pfizer facture une seule dose 23 euros à l'État d'Israël et 19,5 euros à l'Union européenne. À noter que le prix payé par la Commission européenne pour une dose de vaccin Pfizer est passé de 15,5 à 19,5 euros entre fin 2020 et l'été 2021. Et celui de Moderna, qui était de 19 euros, a été porté à 21,50 euros. Du coup, ça va plutôt dans la logique de l'augmentation que d'annuler les brevets. Tout cela alors que les coûts de production sont en baisse. Voilà, donc la solution selon l'OMC, ce n'est pas l'ouverture des brevets, mais bien donc COVAX. Et COVAX, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que vous avez suffisamment eu de chiffres, mais en gros, c'est une logique du fonds d'endettement. C'est les grandes puissances qui décident de générer de l'argent pour donner à des pays qui n'ont pas assez pour acheter des millions de doses pour leur population. Sauf que ça crée ces logiques d'endettement sur des années, voire des dizaines d'années. Et bien sûr, ça génère de l'argent à des grandes puissances, puisque y a des taux sur ces enjeux d'endettement. Alors que si on supprimait les brevets, ça serait dans le domaine public. Et du coup, ces vaccins seraient accessibles à tous les pays, sans parler de COVAX, de dette ou de quoi que ce soit.
Ok, merci.
Mais ça, ce serait dans un monde qui ne serait pas capitaliste ou pas un truc comme ça, non ?
Là, comme il y a de plus en plus de pays qui mettent la pression, on peut peut-être espérer, moi alors, je ne suis pas assez spécialiste en OMC, qu'il y a un moment dans la balance, qu'il y a assez de pression pour qu'ils lâchent. Mais comme c'est des enjeux de gros sous, c'est dur à dire.
Peut-être quand ils seront assez gavés, ils lâcheront le truc, quoi.
Eh bien, on voulait vous préparer un petit agenda pour finir, comme d'habitude, sauf qu'il se passe vraiment pas grand-chose, à part des spectacles à l'opéra qui coûtent entre 40 et 90 euros la place. Et du coup, ça en dit long aussi, comme tout à l'heure, sur le fait que tout est en pause et que voilà, quoi, tout est en pause. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu une grosse pensée et de l'empathie pour des personnes qui vivent ou qui zonent dans la rue. Parce que le 25 décembre, je rentrais de chez une copine et en fait, c'était vraiment désertique. Mmh. Tout était fermé, il n'y avait personne, il y avait un mistral incroyable. Et que du coup, voilà, je me dis comme sensation, c'est un peu étrange, voire assez incroyable.
Et moi, j'avais pensé, pareil, un 25 décembre, en me baladant, au chauffeur Deliveroo, parce qu'il y avait, il y avait à peu près que je croisais dans la rue. Mmh.
Eh ben, courage à toutes celles et tous ceux qui sont en mode galère ces jours-ci et même les jours d'après et les jours d'avant.
Qui sont seuls.
Toutes les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont en prison, qui sont dans la rue. Eh ben, de la force et des grosses pensées.
Eh ben, c'est pour ça qu'on fait de la radio aussi.
Bah ouais.
Ça brise l'isolement, mine de rien.
C'est clair. Salut à vous si vous nous écoutez.
On se retrouve vendredi prochain.
Exactement.
À midi et demi.
Ciao.
Ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.